BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. D'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Il est 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business, comme tous les jours jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
C'est l'événement ce soir, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon depuis Davos tout à l'heure à 19h30. Longue interview au cours de laquelle il va réagir, le patron de Total, à cet énorme tacle qu'a adressé tout à l'heure le secrétaire général des Nations Unies, pas qu'à Total, mais à l'ensemble des pétroliers, Audrey, finalement.
Et oui, ils étaient parfaitement conscients dans les années 70 qu'ils allaient brûler la planète, ou encore les responsables doivent être poursuivis. Voilà ce que Antonio Guterres a déclaré donc à Davos. On va bien sûr beaucoup y revenir ce soir, et puis on parlera évidemment de cette journée d'action contre les retraites, puisque ça y est, Guillaume, on y est, c'est demain.
C'est demain, et c'est le patron de la CFTC, Cyril Chabanier, qui sera avec nous dans quelques minutes. On lui demandera notamment s'il parle pour une longue mobilisation de plusieurs semaines, bien sûr, on verra ça avec lui. Et puis l'autre info ce soir, c'est Microsoft, ça se confirme, qui supprime 5% de ses effectifs, 10 000 postes dans le monde, on vous en parlera. Voilà le programme, riche et pourtant non exhaustif de Good Evening Business, on est ensemble jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc cette charge qu'on n'avait pas vu venir, hein, celle du secrétaire général des Nations Unies tout à l'heure à Davos, charge à l'encontre des pétroliers. Ils ont cultivé un grand mensonge depuis 40 ans. Écoutez Antonio Guterres.
Nous avons eu la confirmation la semaine dernière que certains producteurs d'énergie fossile étaient parfaitement conscients dans les années 70 que leurs produits phares allaient faire brûler la planète. Mais comme l'industrie du tabac, ils ont fait peu de cas de leur propre science. Certains géants pétroliers ont colporté le grand mensonge. Et comme l'industrie du tabac, ses responsables doivent rendre des comptes.
Voilà cette charge brutale d'Antonio Guterres tout à l'heure à Davos. Écoutez quelques instants plus tard la réaction de Patrick Pouyanné, donc le patron de Total Energy.
On ne savait rien du tout. On lisait les papiers. Moi, je n'ai pas des scientifiques du climat chez Total Energy. On peut m'en raconter des choses. Donc on veut réécrire une histoire qui me paraît pour le moins étrange. La question n'est pas de savoir... On est tous collectivement, quelque part. Mais aujourd'hui, ça continue. Parce que pourquoi désigner les compagnies pétrolières ? Qui tire de l'argent du pétrole et du gaz aujourd'hui ? Il y a plein de compagnies. Les compagnies fabriquent des voitures. Les voitures fonctionnent à l'essence, que je sache. Les avions, les compagnies aériennes. Donc, ce débat me paraît complètement un faux débat. La question maintenant, c'est sommes-nous collectivement, à l'échelle de la planète, capable de nous mobiliser.
Voilà Patrick Pouyanné avec Edwige Chevrillon. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir.
La charge est lourde. Est-ce qu'il peut arriver, on ne sait pas bien sûr, demain aux pétroliers, ce qu'il est arrivé aux cigarettiers qu'on payait lourd, qu'on payait cher depuis des années finalement?
Oui, mais la charge est très lourde et il ne faut vraiment pas la minimiser d'abord, parce qu'elle est quand même prononcée par un personnage politique éminent qu'on entend peu, le secrétaire général de l'ONU, à Davos en plus, donc devant un parterre de chefs d'entreprise du monde entier. Et effectivement, la comparaison avec les cigarettiers est quand même extrêmement forte. Alors effectivement, on est sur la thématique, ce grand mensonge, c'est exactement le même terme qui avait été employé il y a une vingtaine d'années aux États-Unis concernant les quatre cigarettiers. Et là, on ne parlait plus, et est-ce qu'on est en train de se diriger vers cela pour les pétroliers, on ne parlait plus de Philip Morris ou de British American Tobacco, mais de Big Tobacco. Ouais. Voilà, c'était le grand Manitou, la grande industrie du tabac. On mettait tout le monde dans le même sac. Et c'est ça que Antonio Guterres est en train de faire. Il ne parle pas de tel ou tel, et la réponse de Tripouenet, c'est celle-ci, c'est de dire c'est le problème des Américains, nous chez Total on ne savait pas. Mais est-ce qu'on est en train de parler de l'industrie pétrolière et effectivement de sa responsabilité? La comparaison encore une fois avec les cigarettes est très importante. Oui. Eux ont été condamnés il y a une vingtaine d'années, multiples procès à la fois de particuliers mais d'associations. Ils ont signé, pour avoir caché en tout cas des informations concernant la dangereuse, les éléments dangereux en termes de santé du tabac qui ne sont plus évidemment à démontrer aujourd'hui. Ils avaient signé un accord extrêmement important avec une quarantaine d'États américains à l'époque, les avaient poursuivis en justice. Ils ont payé 250 milliards d'euros d'amende sur 25 ans. Ça vient de se terminer, parce que c'est en 1998.
246, Mathieu.
246 milliards, absolument, précisément. Donc, on est quand même, encore une fois, sur. C'est très important, parce que les cigarettiers, aujourd'hui, ce sont les seules entreprises qui sont des parias du monde économique, au niveau, du secteur économique, au niveau mondial, absolument, dans tous les pays. Les cigarettiers sont des entreprises qui ne sont pas comme les autres. Voilà, faut pas aller trop loin, mais est-ce qu'on est sur ce point de départ pour les pétroliers?
Est-ce que ça sera le sort des pétroliers dans 10 ans, 20 ans? On ne sait pas. Sur l'accusation en elle-même, Audrey, oui. Ils savaient, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce soir?
Eh bien, ça m'inspire que, évidemment, c'est très grave, puisqu'on découvre là, clairement, que Exxon disposait d'études sur le réchauffement climatique très détaillées, réalisées par ses propres scientifiques, contrairement à ce que M. Pouyanné répond, et qui se sont révélées être précisément ce qui s'est passé plusieurs décennies plus tard. Et la critique, elle se trouve sur le fait que, malgré ces informations, eh bien, Exxon a jeté le doute dans l'opinion publique sur l'état de ses connaissances scientifiques. Et c'est voilà. Quand même inacceptable.
Voilà pour la réponse de Patrick Pouyanné. Je vous rappelle à l'interview que vous pourrez écouter en intégralité tout à l'heure à 19h30. Patrick Pouyanné avec Edwige Chevrillon à Davos sur BFM Business. Autre invité ce soir, ça sera un peu plus tôt, 19h15, Pierre Moscovici. Premier président de la Cour des comptes que vous avez rencontré ce matin, Audrey, à Paris, avec Thomas Asportas. Il présentait ses vœux, il en a profité pour dire qu'il était préoccupé, je cite, par la dégradation des finances publiques en France. Interview qu'on pourra retrouver donc dans un peu plus d'une heure également. 18h06. La rumeur montait depuis quelques heures, c'est confirmé. Microsoft va donc bien supprimer 10 000 postes à travers le monde, 5% de ses effectifs mondiaux. C'est quand même assez inhabituel pour une entreprise de la taille d'Apple. Écoutez ce qu'en disait l'économiste John Plassard chez Mirabeau tout à l'heure sur BFM Business.
Ces 10 000 suppressions d'emplois vont toucher surtout des ingénieurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut y voir ici? Est-ce qu'il faut y voir la fin de Microsoft? Eh bien, non. Mais il faut voir un réajustement, une restructuration par rapport à une situation qui est différente et puis par rapport à un message qui est assez fort de la part des sociétés, notamment informatiques et technologiques, c'est de dire qu'on arrive dans une décélération de la croissance et qu'évidemment, il va falloir ici restructurer.
Voilà, John Plassard tout à l'heure dans BFM Bourse avec nous sur BFM Business. On reviendra bien sûr à 19h sur ces annonces de Microsoft. Nouveau coup dur dans la tech, bien évidemment. Sinon, dans l'aérien, ça bouge chez ITA, l'ex-Alitalia, puisqu'en l'espace de quelques heures, on a appris d'abord qu'Air France KLM jetait l'éponge. En gros, il ne déposera pas d'offre pour reprendre une partie du capital. Puis, dans la foulée, que l'allemand Lufthansa, lui, allait faire une offre en ces sens pour reprendre une part minoritaire. On vous racontera tout ça en détail également à 19h. Et puis quand même un mot de la journée d'action contre la réforme des retraites, parce que c'est demain. Le MEDEF l'a dit ce matin, ses adhérents sont inquiets. On ne sait pas quelle sera l'ampleur de la mobilisation. Cela dit, on ne s'attend pas à voir beaucoup de salariés du privé défiler dans les rues. Caroline Morisseau.
La situation préoccupe évidemment les chefs d'entreprise. Selon un sondage IFOP réalisé par le MEDEF, plus des deux tiers d'entre eux redoutent des mouvements sociaux dans les semaines à venir. Une minorité en revanche, 6% seulement, craignent des mouvements au sein de leur propre entreprise. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, se garde bien de faire des pronostics. La météo sociale est quelque chose de compliqué et je ne sais pas dire quelle sera l'ampleur du mouvement, explique-t-il. S'il reste très prudent, il se raccroche toutefois à deux facteurs qui pourraient être déterminants dans les semaines à venir. D'abord, on ne sent pas à ce stade de forte mobilisation dans le secteur privé, dit-il. Les salariés sont plus préoccupés par la dégradation de leur pouvoir d'achat et leur fin de mois que par la réforme des retraites. Autre élément, il y a une grosse différence par rapport aux mobilisations de 2010 et 2019, c'est le télétravail. Avec la crise Covid, la pratique s'est généralisée. Les chefs d'entreprise et les salariés se sont habitués à travailler à distance. Ce n'est pas le cas partout, mais à Paris, cela peut permettre de faire face à un blocage des transports. Tout dépendra bien évidemment de la durée du mouvement.
Voilà, Caroline Morisseau, ça reste une journée quand même pleine d'interrogations, pleine de flou, Audrey, hein, demain, évidemment.
Alors, en effet, puisqu'on a un contexte qui est très propice, et c'est vrai, à une forme d'embrasement social, maintenant, il ne faut pas oublier non plus que la priorité pour les Français, c'est le pouvoir d'achat, et il faut que les salariés acceptent de perdre des jours de grève en ce moment. Ce n'est pas joué.
Ce n'est pas joué. On parlera bien sûr de tout ça dans un instant avec le patron de la CFTC, Cyril Chabanier. 18h09, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouvez Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. Toute petite hausse ce soir à la Bourse de Paris, Étienne.
Importante car elle permet de signer une sixième séance consécutive dans le vert pour la Bourse de Paris qui est toujours au-delà des 7000 points, 7083 points, 0,09% de progression. On était bien plus haut cet après-midi et puis vous avez des membres de la Fed qui ont un petit peu calmé le jeu, qui ont dit certes l'inflation ralentit, certes la consommation ralentit, mais on va continuer de relever les taux dans les prochaines semaines. Donc ça fait basculer Wall Street dans le rouge et puis vous avez un marché obligataire également qui recule très sérieusement parce qu'on a un 10 ans américain qui revient sur ses niveaux de septembre dernier à 3,4%, 10 ans français à 2,4%, alors qu'on était au-delà des 3% il y a encore quelques semaines. Tout ça, c'est bon pour les valeurs de croissance. Secteur du luxe, on en parle tous les jours en ce moment. Mais aujourd'hui, vous avez Burberry et Richemont, la maison mère de Cartier, qui ont publié leurs résultats. Croissance à deux chiffres en Europe, en zone Amérique. Et puis surtout, sur les premiers jours de janvier, vous avez Burberry qui dit que la tendance est très très bonne en Chine avec la réouverture. Donc tout ça, ça a profité au secteur aujourd'hui. Puis à l'inverse, séance très compliquée pour Fnac Darty, avec des ventes de Noël qui n'ont pas été au rendez-vous et un titre qui perd quasiment 7% ce soir à la clôture. 34 euros, c'est la plus forte baisse du SBF 120. Et donc la Bourse de Paris qui signe une sixième séance dans le vert, toujours au-delà des 7000 points. 7083 points ce soir au fixing.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à mi-séance. Le Dow Jones qui décroche d'un peu plus d'1%, 33 526 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui perd 0,75%, 11 012 points. On ira voir bien sûr Sabrina Cogliozzi à New York dans une heure, 18h11. C'est l'heure de notre premier invité, tout de suite, pour parler de la
Good
réforme
business,
des
l'invité.
Retraites. Le premier invité, c'est Cyril Chabanier. Bonsoir, monsieur Chabanier. Installez-vous,
bonsoir.
Président de la CFTC. Est-ce que vous partez pour un one-shot ou idéalement pour une longue, longue, longue mobilisation? C'est quoi le plan, monsieur Chabanier, dans cette histoire, finalement?
Ah, on ne part pas du tout pour un one-shot. Alors, évidemment, demain, c'est la première étape, c'est la première mobilisation. Et il faut qu'elle soit réussie, parce que beaucoup de choses vont quand même dépendre de la réussite de demain.
Oui.
Mais évidemment qu'on part sur un combat qui va être, on imagine, assez long. Il y aura d'autres appels à la manifestation et à la grève. L'idée aussi, c'est que dans chaque secteur, il puisse y avoir tous les jours des actions qui sont menées. Et là, on laisse nos différents syndicats voir, par rapport à leur secteur d'activité, quelle action ils souhaitent mener. Mais c'est évident, on a un débat pendant 20 jours au Parlement, oui. À peu près. Pendant ces 20 jours-là, c'est évident qu'il y aura...
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous parlez d'un combat long, et en même temps, en face, il y a un calendrier qui est quand même très serré, puisque la présentation, elle se fait en Conseil des ministres lundi prochain, le début de l'examen à l'Assemblée, c'est le 6 février, et puis ensuite, les débats qui seront clos le 26 mars au Parlement. Donc, c'est quand même une fenêtre très courte pour mobiliser longtemps.
Oui, alors c'est une fenêtre courte, mais entre les allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, on a...
Et les vacances de février dans l'intervalle quand même, Stéphane, qui n'aide pas forcément à mobiliser les troupes.
Mais on a à peu près un mois et demi, deux mois, voilà, on doit dire deux mois devant nous, et deux mois, c'est quand même du temps pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir faire infléchir le gouvernement. Et encore une fois, de se remettre autour de la table, au moins pour discuter sur d'autres solutions que le report de l'âge légal. On est certains syndicats, et nous, à la CFTC, on veut bien une réforme des retraites, on veut bien discuter d'une réforme des retraites.
C'est peut-être ça qui vous différencie des autres syndicats, c'est que vous dites, par exemple, la hausse de la durée de cotisation aurait été une option préférable.
Oui.
Ce qui tend à confirmer, vous nous le dites vous-même, que quand même, il faut une réforme des retraites en France.
Mais il y a deux choses qui sont très importantes. Le président, en 2017, nous avait dit on a un modèle de système de retraite qui n'est pas juste. Depuis très longtemps, on dit à la CFTC que le modèle actuel n'est pas juste. De toute façon, quand vous avez 42 systèmes
de retraite, plus sur
par définition...
Vous attendez plus sur l'aspect financier, là, l'urgence financière de la réforme. Là.
Mais sur l'urgence financière de la réforme, le rapport du COR nous a montré qu'il n'y a pas d'urgence financière, il y a une préoccupation. Voilà. On nous dit qu'il va manquer dans les années à partir de 2024-2025 entre 10 et 12 milliards.
Le corps est fait comme ça, vous le savez, hein, monsieur.
Oui, mais c'est pour ça que je ne fais même pas un débat de chiffres. On nous dit entre 10 et 12 milliards, dont acte, je veux bien travailler sur le fait qu'il faille financer ce régime, très important par répartition, et que donc il faille trouver entre 10 et 12 milliards. Mais il y a d'autres solutions. On a mis tout un mix de solutions sur la table. Évidemment, le travail des seniors. Évidemment, de déplafonner le plafond sécurité sociale pour que les plus hauts revenus participent plus. Une réforme dans laquelle il y a zéro effort demandé aux entreprises. 100% de l'effort est demandé aux salariés.
Mais alors justement, est-ce que vous pensez, vous, qu'il est normal que tout soit porté par les actifs?
Déjà, c'est pas normal que ce soit porté uniquement par les actifs salariés. On devrait déjà avoir les entreprises qui portent. Après, on pouvait discuter aussi sur l'effort pour les retraités actuels, mais je crois pas que le débat vraiment y soit là.
Ah, mais pourquoi est-ce qu'il est pas là justement ce débat, monsieur?
Mais parce que très très honnêtement, sur les 10, 12 milliards qui sont à apporter à ce régime pour qu'il soit équilibré. 15% de seniors qui travaillent en plus, je vous rappelle qu'un sur deux arrive à la retraite et n'est plus un actif, c'est 10 milliards. Simplement les milliards qui sont donnés en baisse de cotisation, enfin, il n'y a pas une journée où sur vos plateaux, on n'apprend pas qu'il y a une exonération de cotisations.
Oui.
Et après, on vient nous voir en disant il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ben oui, si on exonère tous les jours de cotisations, on a eu la prime Macron exonérée de charges sociales.
Il n'y a pas un jour qui ne passe pas non plus sans qu'on découvre que certaines catégories de retraités ne bénéficieront pas de la retraite à 1 200 euros aussi, dont on nous a beaucoup parlé ces dernières semaines. Ça aussi, malheureusement.
Ça, on en a parlé depuis le départ, y compris moi sur votre plateau, où je vous avais dit que, un, c'est 1 200 euros brut et pas net. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et en plus, il faut une carrière pleine et on sait que des personnes qui sont au SMIC et qui pourraient bénéficier de ces 1 200 euros bruts, dans la réalité, il y en a moins de 1 sur 2 qui ont une carrière complète. Vrai, donc on va avoir à peu près que 45% de ces personnes qui vont en bénéficier. Quand tout le monde va bien comprendre ça et qu'ils vont voir en fait qu'ils n'en bénéficient pas, on va avoir un sacré soulèvement à ce moment-là.
Oui, mais ce que vous dites, et je vous entends très bien, c'est que le trou dans la raquette, c'est les carrières hachées, mais en même temps, qu'est-ce que vous proposez ?
Sur les carrières hachées, on avait proposé, par exemple, que les droits familiaux soient reconnus. On sait que beaucoup de carrières hachées sont énormément des femmes aujourd'hui. Il y a un petit geste du gouvernement.
Voilà. Alors maintenant, les femmes, qui ont eu des enfants, peuvent prendre 4 trimestres.
Alors, on a au moins été, parce que évidemment, dans une réforme et dans la présentation, on a eu, en dehors du fait du report de l'âge légal, une quarantaine de mesures qui ont été annoncées. Il y en a quelques-unes qui sont positives. La CFTC avait demandé que les droits familiaux soient pris en compte, et on a 4 trimestres aujourd'hui qui sont pris en compte pour des congés parentaux et également pour les aidants. C'est un premier geste. Après, 4 trimestres, c'est qu'une année. Et là où on ne va pas jusqu'au bout, c'est que ça comptera en tant que trimestre, donc sur la durée de cotisation, mais ce n'est pas pris en compte sur le montant total. Et nous, pour les congés parentaux, par exemple, on souhaitait qu'il y ait, dès le premier enfant, une aide de 100 euros, plutôt que d'avoir, enfin je dis 100 euros parce que c'est approximativement ça, plutôt que d'avoir 300 euros au troisième enfant, qu'on donne 100 euros
à chaque
dès le premier enfant, à chaque enfant.
Est-ce que c'est pas regrettable qu'on vous entende pas davantage sur la situation des femmes? Et là, c'est moi qui le dis, pour le coup.
Mais je suis très heureuse
de vous dire. Dieu sait si on a dit que le système à points tel que l'avait vendu Emmanuel Macron aurait permis de gommer de nombreuses inégalités dont souffrent les femmes à l'heure actuelle.
En 2019,
pourquoi est-ce qu'on vous entend pas plus sur ce sujet depuis?
Très honnêtement, en 2019.
Enfin, je dis vous, c'est l'ensemble des syndicats.
Je n'ai pas arrêté de parler du problème des carrières hachées et donc des femmes. Vous savez qu'à la CFTC, on soutenait l'idée d'un système universel par points, pas forcément tel qu'il était présenté par le gouvernement à la fin, mais on soutenait ça. Sur votre plateau, j'avais soutenu aussi qu'il y avait un grand combat sur l'âge d'annulation de la décote, puisqu'on a 120 000 personnes qui doivent aller jusqu'à 67 ans pour avoir leur décote annulée, dont 90 000 femmes sur les 120 000. Et on était même prêt à discuter, passer un moment, sur l'âge pivot, puisqu'on avait l'engagement d'Edouard Philippe, qui disait que si l'âge pivot était à 64 ans, l'âge d'annulation de la décote diminuait de 3 ans. Là où on s'est fâché et on est parti dans la rue, c'est que la décote était pérenne. Et que lorsqu'il vous manquait un an ou deux, vous preniez 5% ou 10% de décote pendant 30 ans si vous aviez la chance de vivre 30 ans. C'était inacceptable. Il fallait que la décote elle soit provisoire. Mais franchement, sur le combat des femmes, et on le voit là avec cette petite chose qu'on a pu obtenir, qui n'est pas négligeable, même si 4 trimestres, c'est pas suffisant, on voit bien que la CFTC est fortement mobilisée sur ce sujet.
Et alors demain, vous attendez combien de personnes ?
C'est toujours très compliqué à donner un chiffre. Très honnêtement, ça se mobilise très bien.
Vous avez vu les chiffres des RG qui disent entre 700 000 et 1 million de personnes.
700 000 et 1 million. Voilà. Forcément, s'il y a 1 million de personnes dans la rue demain, c'est une grande victoire. Mais même 700, 800 000, c'est déjà énorme. On a une pétition qui est partie il y a 5 jours. On a déjà plus de 500 000 signataires. On sent une grosse volonté de se mobiliser. Je ne suis pas le syndicat qui est le plus habitué à appeler à aller dans la rue. Et donc, ce n'est pas forcément les premiers adhérents qui se mobilisent. Et on sent que demain, on sera en nombre à la CFTC. Et donc je pense que...
Et est-ce que les femmes se mobilisent autant que les hommes ?
Et les femmes se mobilisent autant que les hommes. Clairement, parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait pour elles n'est largement pas suffisant et les principales injustices demeurent.
Est-ce que ça va se passer sans heurts, demain, sans débordement ? Parce que ceci est la grande crainte. Est-ce qu'on peut en être sûr ? Ça, on n'en est jamais sûr, monsieur.
Nous, on fera en sorte que ça se passe le mieux possible. Il n'y aura pas de débordement de notre côté. Après, j'ai entendu le ministère de l'Intérieur nous dire qu'il y avait... qui pensait qu'il y aurait un peu plus de 1000 casseurs qui pourraient venir. Nos services de sécurité feront le maximum pour que ça se passe bien. Malheureusement, le
Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour aller faire grève s'il y a grève des transports ?
C'est une excellente question.
Un éternel casse-tête, ça, je crois.
Un éternel... Alors, je sais que mes collègues plus présents que moi à la RATP ont déjà prévu d'avoir des horaires entre midi et deux, puisque ça commence à 14h, et vers la fin, vers 18h, d'avoir un certain nombre de métros qui circulent pour faciliter la venue sur les lieux de rendez-vous. Mais c'est toujours une problématique. Beaucoup de nos adhérents ont déjà prévu... on a des départements qui ont loué des bus, par exemple, où beaucoup viennent en voiture. Donc la circulation sera difficile demain.
Et ouais, on ne fait pas encore grève en visuel. Ça viendra peut-être, vous me direz.
Merci beaucoup. On peut se déclarer.
Exactement.
Manifester en visuel, on n'est pas encore passé à ce cap-là.
L'époque peut-être nous y amènera. Merci beaucoup, Cyril Chabagnan, en tout cas. Merci beaucoup d'être passé nous voir, le président de la CFTC, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci infiniment. 18h20, petite pause.
Petite pause. On se retrouve pour le débat de Good Evening Business. On continuera à parler de ce sujet, évidemment, avec nos éditorialistes, mais pas que.
Mais pas que, bien sûr, la grande sortie du secrétaire général des Nations Unies sur les pétroliers. Puis je vous rappelle la grande interview du PDG de Total Energy à 19h30 sur BFM Business. Très beau menu ce soir. On est ensemble jusqu'à 20h.
À tout de suite.
Good Evening Business, le débat.
Allez, 18h24, c'est parti pour le grand débat. C'est déjà... très enjoué, on va dire ça comme ça. Ça commence très fort. Le débat avec Audrey Tcherkov, bien sûr. Bonsoir. Franck Dedieu est avec nous. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, dont je vous présente le dernier numéro. Pourquoi vos pharmacies sont vides? Scandale.
Vides de médicaments, donc.
Vides de médicaments, voilà. Évidemment.
Évidemment. Ouais. On en dira un petit mot tout à l'heure.
Bien entendu. Franck.
Eric Lewin, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Rédacteur en chef des publications Agora. Emmanuel Le Chypre, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste BFM Business. Alors, cette énorme déclaration dont on va parler jusqu'à 20h, toute la soirée, et même demain, sur BFM Business, celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lourde charge contre les pétroliers. Ils savaient depuis 40 ans, ils n'ont rien dit. Ils ont colporté le mensonge. On va réécouter quelques secondes.
We learned last week.
Nous avons eu la confirmation la semaine dernière que certains producteurs d'énergie fossile étaient parfaitement conscients dans les années 70 que leurs produits phares allaient faire brûler la planète. Mais comme l'industrie du tabac, ils ont fait peu de cas de leur propre science. Certains géants pétroliers ont colporté le grand mensonge et comme l'industrie du tabac, ces responsables doivent rendre des comptes.
Those responsible must be held to account.
Est-ce que vraiment on ne savait rien il y a 40 ans quand même, Audrey? On a envie de se poser la question quand même, non?
Alors j'entends la petite musique de Emmanuel Le Chypre nous parler de démagogie.
Attendez.
Mais en réalité, non mais c'est très grave, parce que ce qu'Antonio Guterres dit, c'est que on vient de se rendre compte que Exxon disposait dans les années 70 d'études scientifiques qui se sont révélées être exactement ce qui s'est passé plusieurs décennies plus tard, et la critique elle est sur le fait que Exxon a sciemment jeté le doute dans l'opinion publique sur la véracité et sur l'état surtout des connaissances scientifiques.
Eric Lewin, tiens, pour commencer. Eric.
Non, franchement, pour moi, c'est un non-event, quoi. Je vois pas pourquoi ça arrive à ce moment-là. Guterres aurait mieux fait quand il est parti en Chine en 2019 de critiquer un peu les Ouïghours et pas de venir dans l'aspect entrepreneurial. Moi, ça me choque pas. Sinon, il faut aussi condamner les industries de la chimie. Il faut condamner l'industrie.
Bon, automobile.
Enfin, ben oui, bon, franchement, ça n'a aucun intérêt, ce débat.
Emmanuel, d'accord avec ce propos?
Alors, mais franchement, alors, en plus, il est inculte et incompétent. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez absolument pas mettre sur le même plan ce qui s'est passé sur le tabac que ce qui s'est passé sur le pétrole. Je veux dire, il y a 40 ans que le pétrole ça pollue, etc. Je veux dire, on le savait. Les cigarettes, c'est pas pareil. Les cigarettes, c'est effectivement sur la santé individuelle de chacun. On a effectivement sous-estimé des études, etc. Mais là, sur le pétrole, c'est pas la même chose. C'est comme si on faisait le procès des gens qui ont construit des bâtiments dans lesquels il y avait de l'amiante il y a 60 ou 70 ans.
Ces procès, ils ont eu.
C'est toujours c'est toujours cette idée un peu, parce que moi j'attends de voir les fameuses études dont ils parlent. Donc voyons voir ça. Mais si vous voulez, je suis d'accord, c'est un manque de courage total, c'est pour être finalement en phase.
C'est pour faire le buzz à Davos,
avec cette espèce de mode un peu.
Bah, c'est ça aussi qu'on comprend. Pourquoi maintenant, finalement? Pourquoi maintenant?
Moi, je vais être heureusement ou malheureusement assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que cette archéologie écolo-économique m'agace. Moi, j'ai plutôt envie de savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Se dire, demain, est-ce qu'on va protéger mieux qu'on le fait aujourd'hui les lanceurs d'alerte? chez les pétroliers. Demain, est-ce qu'on va se mettre le nez sur le moyen de financement, comment ils financent les campagnes électorales, en particulier aux États-Unis? Demain, j'ai envie de savoir comment on arrête de faire du greenwashing sur papier glacé dans les rapports annuels qu'ils vont publier. C'est ça, c'est le rapport annuel exercice 2023 qui m'intéresse. Il y a le club de Rome de 72 qui déjà tire la sonnette d'alarme. Bon, à vrai dire, c'est vrai que ça relève un peu de la posture, de l'effet de mode un peu sympa, qui consiste à dire parce qu'on est l'ONU, c'est quelque part les droits humains, et donc il y a quelque chose d'universel, et donc je vais prendre un thème qui est facilement universalisable et finalement assez simple. Moi, j'ai plutôt envie qu'on prenne des décisions pour l'après. L'après, c'est-à-dire les décisions de 2023.
Allez, une minute avant la pub.
Non, mais pour répondre à la question pourquoi maintenant, pourquoi maintenant ? Peut-être parce que les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, peut-être parce que ça fait 40 ans que le GIEC tire la sonnette d'alarme, et que pour autant, en effet, vous avez raison de parler de ces entreprises qui font des rapports annuels qui sont complètement déconnectés de la réalité, et on sait par ailleurs que si on n'a pas la mobilisation totale du secteur privé cette année pour tenir l'objectif de 1,5 degré, eh bien la bataille, elle sera perdue.
Oh, ça laisse tout le monde.
Non, mais si vous voulez, moi je ne crois absolument pas à ce genre de déclaration. Via ces mystères,
c'est le timing, c'est le timing, c'est le timing qui vous intéresse.
Mais pourquoi? Parce que alors moi j'aimerais bien. Alors non, le seul truc intéressant et qui suscite la curiosité dans sa phrase, c'est on a eu la confirmation la semaine dernière. Là, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais je pense qu'il parle de l'étude sur Exxon.
Ouais, c'est de ça qu'il parle. C'est à ça qu'il fait allusion.
Ouais, d'accord.
Mais comment on condamne Exxon derrière? Autant l'industrie du tabac, on avait pu faire quelque chose.
Est-ce que c'est le début
de quoi?
Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère? Voilà, qui va voir les pétroliers connaître le sort qu'ont connu les cigarettiers ces derniers, avec qui vous payez, vous disiez combien? 250 millions.
Mais c'est pas la même chose, les cigarettiers. Il y avait eu la mort d'or, il y avait des tumeurs, des choses comme ça. Comment vous faites sur le pétrole? Donc, c'est un non-événement. Bon, ça nous fait parler, mais je crois que c'est pas très intéressant quand même.
Bon, eh ben, écoutez, ça va continuer à vous faire parler dans un instant, puisqu'on va revenir là-dessus, et on écoutera la défense de Patrick Pouyanné, et un court extrait, puisque je vous le rappelle, interview à suivre sur la durée de Patrick Pouyanné, 19h30. Mais on va y revenir dans un instant, puis on va parler bien sûr de cette grande journée de mobilisation nationale demain contre les retraites qui nous attend. Bien sûr, le débat jusqu'à 19h.
À tout de suite.
Business, 18h30.
BFM Business, l'info éco.
18h30, le grand débat repart dans deux minutes. D'abord, c'est Faïza Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité. Bonsoir Faïza.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Et on commence par ces lourdes accusations de secrétaire général de l'ONU à la tribune de Davos. L'industrie pétrolière a colporté le grand mensonge sur le réchauffement climatique, a dénoncé Antonio Guterres tout à l'heure, affirmant que certaines majors pétrolières étaient parfaitement conscientes depuis les années 70 des conséquences de leur industrie sur leur environnement, parfois alertées même par leurs propres services comme ExxonMobil, à l'instar de l'industrie du tabac. Des accusations qui ont été balayées par Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, qui a été interviewé tout à l'heure depuis Davos par Edwige Chevrillon. Par ailleurs, dans cette interview, il est revenu sur les contrats d'énergie qui étaient jugés excessifs, passés avec les PME. On l'écoute.
Nous avons à peu près un certain nombre de PME qui sont concernées par des prix trop élevés, des contrats signés entre juillet et décembre. Et nous allons leur proposer, elles également, de pouvoir renégocier un contrat qui sera de l'ordre du prix que vous venez de citer, de 280 euros de mégawatt-heure. Donc on va proposer aux clients PME de Total Energy d'avoir un prix équivalent au TPE. Je pense qu'il faut qu'on écoute l'ensemble des consommateurs et rentrer et faire ses propositions.
Patrick Pouyanné, le PDG de Total, interviewé par Edwige Chevrillon. Également dans l'actualité, ce nouveau coup dur pour la tech aux États-Unis. Microsoft va licencier 10 000 salariés à cause de la conjoncture économique, se justifie le géant informatique. Ça se ressent d'ailleurs dans les comptes du groupe. Il avait annoncé en octobre dernier la plus faible croissance de ses revenus trimestriels depuis 2016. Air France KLM jette l'éponge et renonce à faire une offre sur ITA, la compagnie italienne, anciennement Alitalia. Le groupe ne prendra pas de participation et laisse donc le champ libre à Lufthansa pour le rachat. La compagnie allemande est plus que jamais sur les rangs. Elle a déposé son offre pour une participation minoritaire. Une acquisition stratégique. L'Italie est son marché le plus important en dehors de l'Allemagne et des États-Unis. Également dans l'actualité, l'inquiétude de la Cour des comptes. L'institution se dit préoccupée par la dégradation des finances publiques. Les perspectives pour cette année sont mauvaises avec des niveaux de dette et de déficit très élevés. D'autant plus que les prévisions de croissance du gouvernement de 1% pour 2023 semblent particulièrement optimistes pour Pierre Moscovici. Le premier président de la Cour des comptes a été interviewé aujourd'hui par Thomas Asportas et Audrey Tcherkov. Goff. Une interview à retrouver tout à l'heure à 19h15. Et on termine avec le champagne qui bat des records. Les ventes ont dépassé la barre des 6 milliards d'euros pour la première fois en 2022. 326 millions de bouteilles ont été écoulées, un chiffre en hausse de 1,6% grâce aux exportations qui ont progressé de 4,3% et compensé la baisse des ventes en France. Allez, on jette un œil à la Bourse de Paris. Le CAC 40 est à l'équilibre ce soir. La Bourse de Paris clôture à 7083 points.
Merci beaucoup Faiza. 18h33, c'est reparti pour le débat de Good Evening jusqu'à 19h.
Good Evening Business, le débat.
Ils sont toujours là, bien sûr. Audrey Tcherkov est avec nous, Franck Dedieu, Éric Lewin et Emmanuel Lechy. Bon, on a commencé tambour battant sur cette déclaration fracassante du secrétaire général des Nations Unies. On a écouté un extrait de la réponse de Patrick Pouyanné. On a un autre extrait de Patrick Pouyanné à vous répondre. Répond à Antonio Guterres, le patron de Total. Écoutez.
On ne savait rien du tout. On lisait les papiers. Moi, je n'ai pas des scientifiques du climat chez Total Énergie. On peut m'en raconter des choses. Donc, on veut réécrire une histoire qui me paraît pour le moins étrange. La question n'est pas de savoir... On est tous collectivement, quelque part. Mais aujourd'hui, ça continue. Parce que pourquoi désigner les compagnies pétrolières ? Qui tire de l'argent du pétrole et du gaz aujourd'hui ? Il y a plein de compagnies. Les compagnies fabriquent des voitures. Les voitures fonctionnent à l'essence, que je sache. Les avions, les compagnies aériennes. Donc, ce débat me paraît complètement un faux débat. La question maintenant, c'est sommes-nous collectivement, à l'échelle de la planète, capables de nous mobiliser ?
Emmanuel, est-ce que vous êtes convaincu là, par le plaidoyer de...
La parole est à la défense de Patrick Pouyanné.
La défense,
oui, c'est, moi, c'est même pas ça qui m'inquiète et qui me terrorise. C'est la façon dont on utilise, si vous voulez, des études qui ont été faites il y a 50 ans et 70 ans, et à qui on ne reproche qu'une seule chose. Finalement, c'est d'avoir été juste. Mais il y a combien d'études qui ont été faites ? Mettez-vous à la place du patron d'Exxon il y a 50 ans. Vous avez des études qui vous arrivent tout le temps sur votre bureau. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les prenez comment en compte ? C'est facile de dire après, bah regardez, vous voyez, sur toutes les études qu'ils ont publiées, il y en a quelques-unes qui effectivement voyaient juste, etc. Mais à chaque fois, c'est pareil.
Bah, Emmanuel, c'est un peu facile en
mais
fait.
C'est pas un peu
mais
facile.
Non, ce qu'on reproche à Exxon, c'est d'avoir jeté le doute dans l'opinion publique sur la véracité justement des connaissances scientifiques.
C'est pas vrai. Quand vous avez les études, vous êtes un patron, vous avez des études sur votre bureau, c'est un élément de décision parmi plein d'autres. Et encore une fois, c'est toujours facile de dire ah bah celle-là c'est juste et on savait. Non, ils ne savaient pas. Ils avaient des scénarios qui émettaient des hypothèses qui émettaient, qui disaient effectivement qu'il va se passer ça. Regardez tout ce qu'a dit, Franck a parlé du rapport Meadows, Club de Rome. Il n'y a que des conneries dedans. Il n'y a que des trucs faux.
Comment ça, il n'y a que des conneries ?
Il n'y a que des conneries. Toutes les pénuries qu'on annonçait dans le rapport Meadows, elles n'ont jamais eu lieu. Dans le rapport Meadows, vous verrez, on va manquer de cuivre à telle date, on va manquer de pétrole à telle date. Tout était bidon, tout était faux. On allait soi-disant manquer de cuivre parce que l'industrie du téléphone allait manger tout le cuivre. Résultat, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Donc, encore une fois, moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui soient aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui, capables de dire ah bah oui, on avait raison. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas ça. Et moi, c'est ça qui me terrifie, c'est de la woke economy en fait.
Donc, on est surtout dans l'air du temps, et je ne pense pas qu'il arrivera. Pour répondre à la question qu'on commençait à poser tout à l'heure, je ne pense pas qu'il arrivera au groupe pétrolier ce qu'il est arrivé finalement. Mais au non, groupe mais c'est, de tabac c'est ces dernières années. Je veux dire.
Il aurait dû aussi attaquer tout le monde. On attaque l'automobile,
le lobby du sucre,
on attaque le transport, on attaque la construction. Il faut attaquer tous les groupes. Non, je trouve que c'est malvenu. Après, Pouyanné, ce qui est assez drôle. Bon, il a raison. Mais enfin, moi, je pense quand même qu'on savait depuis 30 ou 40 ans que l'industrie pétrolière est quand même ultra, ultra polluante. Après, bon, c'est un phénomène de société. Ça emploie beaucoup de monde à travers le monde et on n'a pas envie de toucher à cette industrie. Alors maintenant, on s'inquiète beaucoup parce qu'il nous faut du développement durable.
C'est la production et l'utilisation de pétrole.
Mais bien sûr.
C'est pas juste les compagnies pétrolières, elles toutes seules.
Non, mais la vérité, elle est ni chez Antonio Guterres, en effet, qui compare les pétroliers aux producteurs de tabac. Elle n'est pas non plus chez Patrick Pouyanné qui dit non, on ne savait rien. Et comme toujours, l'équilibre est à mi-chemin entre les deux extrêmes.
Pour moi, les sucriers, vous pouvez les mettre dans le même sac que les cigarettiers. C'est-à-dire que la façon dont ils ont menti sur l'impact de la consommation de sucre sur la santé, en détournant, on
se vend
l'attention, par exemple, sur le gras qui était le grand truc qu'il fallait surtout pas consommer. Alors, on se rend compte aujourd'hui que c'est surtout le sucre qui fait des ravages. Ça, oui, les cigarettiers, les sucriers, ok. Mais alors, les pétroliers. Franchement, sur la base d'études qui, encore une fois, dire il y a un scénario qui s'est avéré juste sur les 50 qu'ils ont dû explorer.
Éric,
sur Gutiérrez, il a tellement été attaqué sur les droits humains qu'il a besoin, ça fait 6-7 ans qu'il a l'ONU, le bilan est comme vraiment pas prestigieux. Donc il a vraiment besoin de Davos où tout le monde s'exprime, où c'est un petit peu la grande messe pour lancer ce genre de propos, mais à mon avis, ça sera très vite oublié.
Bien, voilà donc, Antonio Gutiérrez rhabillé pour l'hiver par vos soins, messieurs. Je vois qu'on reste du côté de Davos, parce qu'il y a Olaf Scholz qui a parlé tout à l'heure. Il a beaucoup parlé Ukraine. Il n'a pas parlé, on l'attendait là-dessus, notamment aussi sur la réponse aux Américains sur l'IRA. Il n'y a pas de propos dans le discours qu'il a tenu tout à l'heure. En tout cas, on n'en a pas écho. Et on voulait en profiter pour revenir d'un mot sur ce qu'a dit Ursula von der Leyen, qui hier a taclé dans son discours les Chinois, mais n'a pas cité nommément les Américains parmi les pays qui essayent, à coup de subventions mertes, de détruire l'industrie européenne. Quand même assez bizarre de voir que...
Il y a un conflit de loyauté clair pour les Allemands, qui est un vrai problème existentiel. Ça veut dire qu'au bout d'un moment...
Ils taclent les Chinois et pas les Américains.
C'est-à-dire qu'ils sont au pied du mur et ils doivent choisir entre tacler qui, ou plutôt s'allier à qui, aux Chinois, aux États-Unis. Sur le plan commercial, ils ont joué la carte au détriment de l'Europe, en se disant on peut se passer de l'Europe dans les années 90 et 2000, on va jouer vers la Chine, parce que c'est là que sont nos marchés. Et puis aujourd'hui, ils se retrouvent, je dirais, taclés eux-mêmes par les États-Unis, où ils ont de la ressource énergétique qui leur coûte beaucoup plus cher et qui menace de mettre leur entreprise à terre. Donc effectivement, là, il y a une décision de prise. En gros, il dit, ouais, il ne faut pas attention à la démondialisation. On défend l'Ukraine. On imagine même qu'on livrera des chars à condition que tout le monde soit d'accord. Il y a l'idée claire de jouer les États-Unis plutôt que la Chine. Et là, ce en quoi ils sont dans une situation qui est beaucoup plus difficile que la nôtre, c'est parce que eux ont joué l'inverse pour des raisons mercantilistes.
On joue la Chine.
C'est une tradition, le patriotisme économique allemand est une tradition mercantiliste qui joue son intérêt national avant tout. Après tout, pourquoi pas? Et ils ont joué la Chine au détriment de l'Europe. Et bien maintenant, ils se ressentent plutôt vers les États-Unis. Le grand paradoxe, c'est que c'est les États-Unis qui sont dans une certaine mesure à l'origine de leur augmentation de coûts de production.
Pour une Europe quand même qui voulait dire, qui nous disait en gros, on va voir ce qu'on va voir. Olaf Scholz qui n'en parle pas, enfin en tout cas de ce qui nous revient ce soir. Emmanuel Macron qui n'est même pas à Davos non plus, donc qui n'en parle pas.
Non, alors en même temps, heureusement qu'il n'est pas à Davos, parce que je pense que ça aurait été très mal vu le contexte social actuel. Non, mais encore une fois, en fait, les différences en termes de spécificité économique de chacun des pays européens font que justement on est dans l'incapacité de proposer une réponse commune, en tout cas, notamment par rapport à l'IRA.
C'est un peu le drame du moment, Eric.
Puis on continue quand même à négocier avec les Américains, donc on n'a pas trop intérêt à taper, parce que comme le Mexique et le Canada l'ont fait pour des exemptions, nous on a besoin de ça aussi. Donc c'est pour ça que autant chinois on peut taper, autant on a vraiment besoin.
Oui, alors est-ce qu'on a vraiment besoin, Eric, des exemptions? Est-ce que c'est pas de la mendicité organisée?
C'est de la mendicité organisée, mais on peut pas faire autrement. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, personne finalement n'ose crier trop fort contre les Américains.
Donc on est meso voce face aux Américains, Emmanuel, c'est ça pour l'instant.
Je crois que si on essaye de tracer un peu les perspectives des années, voire des décennies qui viennent, on voit bien que de toute façon, on va se couper sans doute d'une façon ou d'une autre de la Chine à terme, puisqu'on va vers cette mondialisation beaucoup plus fragmentée.
Cette régionalisation, quoi. Vous
voyez. Et voilà, on rentre dans un monde aussi qui est sans doute un monde où ça n'est plus la loi du commerce qui va prédominer, mais c'est à nouveau la géopolitique qui va retrouver ses droits, et que, en gros, on va finalement vers une Europe sans doute qui est qui ne va plus être dominée par l'Allemagne et ses valeurs mercantilistes, mais où dans laquelle peut-être la France va retrouver, avec ses avantages, sa diplomatie, son armée, etc., au moment où c'est la géopolitique qui reprend la main, et c'est pour ça que les États aussi sont de retour, finalement une place peut-être un peu plus importante. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que franchement, les discours de Scholz et de Macron sont totalement orthogonaux. C'est-à-dire que Olaf Scholz, il dit, en gros, sa vision, son alpha et son oméga de la vision de l'Europe, c'est ce qu'il a présenté à Prague, c'est son discours de Prague, qui est totalement orthogonal à ce que dit Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, autant vous voyez à longueur de discours Emmanuel Macron qui chouchoute les Allemands, etc., autant dans les discours de Scholz, il ne parle jamais de la France. Ça ne l'intéresse pas.
Donc, est-ce qu'il pourra faire sans la France en même temps?
Donc, moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est que les décennies qui viennent vont sans doute marquer des décennies plus favorables pour la France, parce que le monde qui se dessine, un monde plus fermé, un monde plus étatisé, un monde plus gouverné par la géopolitique que par le commerce, c'est un monde dans lequel la France est sans doute plus à l'aise que le monde ultralibéral et marchand des 30 dernières années. Mais effectivement, on ne peut pas se réjouir que l'Allemagne soit sans doute affaibli et que la vision des intérêts franco et allemands soit aussi orthogonale de part et d'autre du Rhin.
Franck de Dieu, pour finir là-dessus.
Oui, c'est très important ce que dit Emmanuel. Il dit en gros, Moi, je suis assez optimiste parce que l'avenir va franciser les enjeux. Voilà. Bon, le problème.
Il a pas dit comme ça. Il a pas dit comme ça.
Il a dit le monde sera plus français. Ouais, le monde sera plus colbertiste. Il sera plus fermé.
Ah non, il a pas
dit ça. On revient voilà, dans le monde. On quitte le monde de Siemens. Pour rentrer à nouveau dans le monde de Talleyrand. Voilà, pour le dire comme ça.
Oui, ah bah dit comme ça, non, on achète.
Je poursuis, pas tout à fait. Parce que tout cela, à l'intérieur quand même, d'un univers qui s'appelle l'Europe, et qui, pour reprendre ce que disait Emmanuel, si c'est le retour de la force, si c'est le retour du tangible, si c'est le retour de l'idée de puissance, l'Union européenne, elle s'est consubstantiellement formée, et parfois même, on peut dire qu'il y avait des circonstances d'après-guerre qui le légitimaient. Elle s'est formée sur l'inverse de cela. Elle s'est formée sur le doux commerce, sur le libre-échange, sur la souplesse, sur l'anti-keynésianisme, sur l'anti-interventionnisme, sur la concurrence libre et non faussée, sur l'idée que les peuples, lorsqu'ils avaient le pouvoir, et notamment sur l'économie, ils étaient animés de passions dangereuses qui faisaient que de degré en degré, ils pouvaient devenir dangereux. Ça, c'était l'univers de l'après-guerre. Et l'Europe a fondé à la fois, je dirais, son ethos là-dessus, mais plus grave encore, les institutions ont été fondées là-dessus. Les institutions européennes ont toutes été fondées là-dessus. Donc, moi, je suis d'accord avec Emmanuel pour dire, finalement, si le monde demain se francisait un peu, si au fond, le monde nous finissait par nous ressembler, ça serait, bon, on peut se dire qu'il y a une sorte de France éternelle.
C'est pas tout le monde nous ressembler, Franck.
Sauf qu'à l'intérieur de l'Union, c'est pas possible.
C'est vivre selon des règles avec lesquelles on est un peu plus à l'aise que les règles des 30 dernières années.
Allez, on marque une petite pause, 18h44. Bel échange entre messieurs et messieurs. Et puis une petite pause, allez me voir si vous avez envie que le monde nous ressemble, puisqu'on va parler de la réforme des retraites dans un instant. On est à quelques heures maintenant du début de la mobilisation nationale. On marque une pause, on vient dans une minute, allez.
Allez, à tout de suite.
Good evening business, le débat.
7, encore 10 minutes avec nos débatteurs. Audrey Tcherkov est avec nous,
bonsoir.
Franck Dedieu, Éric Lewin, Emmanuel Le Chypre à quelques heures ou quelques minutes. Ça commence à 19h ou 20h, je ne sais pas, ce soir.
C'est la grande question.
Je ne sais pas.
19h seront les uns, 20h sont les autres.
Non, mais ça commence ce soir.
Oui, enfin, on vous libère à 19h de toute façon, vous avez le temps de rentrer en quatrième.
Mais lui, on a notre chauffeur, vous savez, c'est pas très grave.
Oui,
surtout toi.
Écoutez, histoire de vous mettre dans l'ambiance, François Ruffin de la France Insoumise ce matin qui plante le décor.
Il faut montrer au président qu'il y a une opposition très ferme à cette réforme-là. Que c'est une réforme particulièrement injuste après 3 ans où les Français ont déjà tout encaissé et où je le redis, 93% des salariés sont opposés à cette réforme, 3/4 des Français sont opposés à cette réforme, 2/3 des Français disent pour financer ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut aller taxer les grandes entreprises et les grandes fortunes.
Et ça, on a bien compris que c'est votre thèse.
Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas encore dit à quelques heures de cette grève, finalement, Audrey ? Voilà, la mobilisation aura lieu.
Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas encore dit ? Je ne sais pas, parce qu'on en parle depuis 2 semaines, mais en tout cas, les syndicats espèrent évidemment un mouvement d'une ampleur de 95, voire 2010. Donc, ils font tout pour qu'il y ait 1 million de personnes demain dans les rues. C'est clair que du côté des grandes entreprises publiques, il va y avoir des mouvements sociaux forts. Maintenant, du côté du privé, je suis plus mitigée. C'est ce que Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, disait aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, et puis on peut aussi rappeler que le droit de grève, ce n'est pas un droit de blocage et j'espère qu'on pourra tous aller travailler demain.
Geoffroy Roux-de-Bézieux disait les Français sont finalement plus préoccupés par le pouvoir d'achat que par les retraites. Éric,
moi je comprends pas le chiffre du Ruffin parce que moi j'ai vu que 61% pourtant des Français étaient favorables à cette réforme des retraites. Donc je sais pas qui dit vrai, mais on peut sortir des chiffres dans tous les sens. Non, oui, évidemment.
Alors, 61% des Français sont favorables à une réforme des retraites qui n'est pas tout à fait celle que propose. Voilà. C'est pas tout à fait celle que propose Macron.
Mais enfin, ils sont quand même d'accord pour comprendre qu'on a un problème de cotisation.
Ils veulent supprimer les régimes spéciaux.
Et de démographie. Et donc travailler un peu plus.
Non, il faut évidemment, moi qui suis dans l'économie, faire absolument cette réforme des retraites. Maintenant, est-ce qu'on sera comme en 2010? En 2010, ça s'était bien passé. Il y avait eu 3 journées à plus d'un million de manifestants. Très peu de blocages, si ce n'est les raffineries à la fin. Là, la problématique, c'est que les syndicats peuvent être dépassés et par les black blocs et surtout par les gilets jaunes. Donc on est un peu dans l'incertitude et dans l'expectative. Mais j'ai le sentiment, moi, pour parler avec des PME dans le privé, que dans le privé, on se rend compte qu'il faut y aller et qu'il y aura cette réforme des retraites.
Franck, vous attendez une forte mobilisation, vous, demain ? Comment est-ce que vous regardez cette séquence ?
Difficile à dire, forte mobilisation. Le gouvernement redoute pas forcément, évidemment, les phénomènes de la rue, hein, les grèves, mais plutôt des grèves sectorielles qui finiront par perturber et paralyser le pays. Mais, pardon, mais de revenir sur la base du raisonnement, c'est que ce projet, cette réforme, c'est une réforme de classe, où on a décidé de faire payer le travail et pas le capital, dans une proportion claire. 100% doit reposer sur les salariés, 0% sur le capital. Dans ces conditions, après des années de Covid, malgré l'échec, etc., après des crises successives, les Français ont l'impression que, effectivement, on ne fait pas payer ce qui devrait payer. Et donc, à partir du moment où il y a un sentiment d'injustice, à partir du moment où on ressouffle sur les braises jamais véritablement éteintes de cette mythologie un peu révolutionnaire qu'est la France, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une forte opposition. Parce que le projet est un projet de classe clair. C'est, pardon d'utiliser des termes un peu marxisants, mais ça me paraît tellement clair, tellement évident. Alors, vous pouvez l'habiller de considérations super techniques sur des trimestres, des pénibilités, des taux d'index d'entreprises qui respecteraient pas le senior avec du name and shame. Il y a quand même quelque chose de clair. C'est quelque part, ça ranime un peu une guerre des classes.
Et en même temps, Franck, faire payer les entreprises dans le pays où il y a le plus de prélèvements en Europe, est-ce que c'est la bonne solution ?
Il y a des prélèvements, mais Audrey, il y a aussi des aides. Il y a 157 milliards d'aides aux entreprises chaque année, disent les chercheurs de l'Université de Lille. J'ai fait un calcul. Je me suis dit, pour résorber ce déficit des caisses de retraite, 12,5 milliards à horizon 2025.
Ça, c'est ce que dit le corps.
Eh bien, il suffirait de renoncer à ces aides annuelles pendant un mois. Un mois. C'est-à-dire qu'on se dit, il suffit qu'on renonce à un mois d'aide aux entreprises pour résoudre le déficit.
Et en même temps, ça mettrait combien d'entreprises sur la paille ?
Mais
un mois.
Dit, Audrey, c'est là où véritablement il y a un problème. Vous avez dit tout à l'heure dans une de vos interventions, la réalité, elle est toujours un peu entre les deux.
Oui.
J'ai pas dit qu'il fallait actionner le seul levier des aides, de la même manière qu'il faut pas actionner le seul levier de faire payer les retraités riches d'aujourd'hui. Mais il faut peut-être faire en sorte que ce soit pas les actifs et les salariés qui payent tout.
Et les retraités, pardon, je le dis, mais enfin, si vous voulez en dire un mot dans les 5 prochaines minutes, et les retraités, finalement, dans cette histoire. Pourquoi est-ce que tout repose sur les actifs ? Est-ce que tout doit reposer sur les actifs, Emmanuel ?
Alors, j'entends effectivement, mais ce que soulève Franck, c'est le cercle vicieux total qui fait que parce qu'on a beaucoup de complexité administrative, des surcoûts de l'hyper-réglementation, une fiscalité plus élevée qu'ailleurs, du coup, on est obligé de soutenir les entreprises et que c'est quelque part absurde. C'est-à-dire qu'en gros, parce que nos entreprises sont celles pour qui c'est le plus difficile d'opérer par rapport à tous les autres grands pays, on est obligé de compenser avec des aides. Moi, je suis d'accord. Si on dit remettons tout à plat, fonctionnons de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et voilà. Après, on voit bien quand même que toutes les décisions qui ont conduit à baisser la fiscalité sur les entreprises ces dernières années ont quand même produit des résultats incontestables. Regardez l'attractivité de la France, regardez l'emploi, etc. Donc oui, rendre les entreprises alléger un peu leur fardeau fiscal, franchement, ça n'a rien indécent. Après, alors là...
Même si l'efficacité des mesures Hollande n'ont jamais été vraiment vérifiées totalement. Enfin, il y a encore une zone de flou, quand même.
Sur quoi ?
Sur ce qui s'est fait du temps pour le CICE.
Bien sûr que si, vous les avez, toutes les... Non, CICE, mais toutes les mesures fiscales prises sous Jean-Marc Ayrault, vous voyez très bien, enfin, via les statistiques sur les Français qui sont partis à l'étranger créer de la richesse et de la valeur et qui sont revenus après, etc. Les statistiques, vous les avez. Et au même titre que, finalement, Franck et ses amis... je vais un peu caricaturer.
Non, mais non.
Mais on tape toujours. En gros, il y a 10 riches qui sont capables.
J'ai pas
de
fait. J'ai pas dit
je
ça.
Je sais bien que tu l'as pas tout à fait dit. En gros, il y a 10 riches qui sont capables
de sauver la
France. Si on leur fait les poches, de résoudre tous les problèmes de la France. Ça, c'est à peu près clair. C'est ce qu'on entend à peu près partout. Par contre, quand Franck dit, alors là où je suis absolument pas d'accord, c'est tout sauf une réforme de classe. C'est-à-dire, ok, les cadres sont pas particulièrement impactés, mais les plus modestes non plus ne sont pas impactés. Si vous regardez ce que dit l'Institut des politiques publiques, pour les 20% de Français les plus modestes, il y en a les trois quarts qui ne vont subir aucun préjudice à cette réforme. Pour une raison très simple, c'est que déjà ces gens qui ont des difficultés de trajectoire, de carrière, etc., ont des carrières qui sont tellement hachées que déjà aujourd'hui, ils sont obligés de toute façon
d'aller à 67 ans.
Au-delà de 64 ans.
Donc, non, d'aller à 67 ans pour obtenir
oui,
une...
Oui, bah donc au-delà de 64 ans.
Bien sûr, oui.
Et donc,
oui.
De toute façon, ça ne change pas tant que ça pour eux. Alors après, on entend toutes les conneries, il y a un quart des plus pauvres qui vont à la retraite. En gros, on parle de qui ? On parle des 5% les moins favorisés, on ne parle que des hommes, et on parle de gens qui, finalement, n'ont jamais quasiment travaillé de leur vie, qui sont aux minima sociaux qui ont passé leur vie aux minima sociaux, et qui n'ont jamais travaillé. Donc, on n'aille pas dire que c'est lié à un problème de travail.
Éric Lewin.
Moi, je ne comprends pas ce débat où on est le pays d'Europe, où on est à la retraite le plus jeune, on a une espérance de vie en 40 ans qui a augmenté de 25 ans. Je ne comprends pas. Ça me paraît complètement absurde. À part pour des métiers où il y a vraiment une certaine pénibilité. Je peux le comprendre, mais même des conducteurs de train, on n'est plus à l'époque de Jacques Lantier dans Germinal. Il faut arrêter tout ce délire autour de travail.
Enfin, quand tu écoutes ce qui se dit dans les médias, il n'y a que des métiers pénibles. Moi,
je sais pas.
Tout le monde trouve qu'il fait un métier pénible.
Et en plus, la pénibilité, il paraît qu'on n'a que 5000 médecins de travail en France. Donc, quand on mesure cette pénibilité, on est incapable de mesurer cette pénibilité. Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'étonnent. Comme cet indice des seniors, je trouve ça complètement débile. C'est bien de faire travailler des gens jusqu'à 64 ans. Mais un indice.
C'est superflu, c'est surtout ça.
Non, l'indice des seniors, soit vous avez des vraies sanctions. En disant dans les entreprises il n'y a pas assez de seniors, mais c'est pas parce qu'on publie un indice bidon qu'on est une entreprise qualifiée. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il aurait fallu prendre des sanctions financières contre les boîtes qui n'emploient pas assez de seniors, c'est parce que le vrai problème, il est là. Parce
bien
que dès
qu'il
vous avez 59 ans, oui. C'est-à-dire quasiment notre âge, Manu et moi, on vous fout dehors parce que vous êtes plus compétitifs. Et ça, je pense que c'est là le vrai problème.
Bon, on m'avait pas répondu sur les retraités. Fallait-il faire participer les retraités à l'effort de guerre ?
Évidemment, ils ont tout aujourd'hui. Ils ont un patrimoine considérable, ils ont des retraites qu'ils n'ont pas payées, et donc ce serait normal, là encore, de les mettre un peu... Non mais je veux dire, le sens de l'histoire de l'humanité, c'est quand même de privilégier les générations qui viennent et pas les générations qui s'en vont.
Alors, sauf quand dans une société, les retraités représentent une grande partie de l'électorat.
Ah bah voilà, bah oui, bah à ce moment-là, alors signons tout de suite notre thalassie.
Franck, pour finir.
Économique et financière.
Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Effectivement, je parlais de guerre de classe. Il y a aussi, il a quelque part ce projet... Il déclare aussi la guerre des âges. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant, même dans les études d'opinion, la différence entre les retraités et les actifs sur cette réforme est manifeste. Et donc, effectivement, quand vous avez des retraités qui ont acheté leur appartement ou leur maison pour pas cher, qu'ils ont eu en plus l'inflation qui a permis de rendre le fardeau plus léger, qu'ils n'ont pas eu véritablement de problème de retraite, et bien, effectivement, cette inégalité qui n'est pas intergénérationnelle, qui est intragénérationnel. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire pour les économistes de se dire, est-ce que la solidarité ne doit être qu'intergénérationnelle ? Est-ce qu'elle ne peut pas aussi être intragénérationnelle ?
C'est ça le problème, c'est qu'on ne s'interroge que sur la solidarité et qu'en fait, la vraie question et le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est son rapport au travail. Je termine juste avec une petite anecdote. Une grande entreprise du secteur automobile qui a trois usines strictement identiques en France, en Allemagne, en Espagne.
Oui.
C'est-à-dire, le seul pays dans lequel les salariés viennent toquer à la porte de la DRH à partir de 55 ans pour partir, pour machin, ils sont plus heureux, etc., c'est la France. Je veux dire, ailleurs, les gens sont très contents de bosser. Donc, il y a un moment où, fondamentalement, ce qui interroge, c'est notre rapport au travail.
Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci,
messieurs. Alors, on n'aura pas le temps de parler du service minimum.
Non, mais...
Ça sera la prochaine fois.
On en fera d'autres, parce que alors, ça fait partie des marronniers, vous savez, les métiers qu'on fait. On en parle à chaque grève, on ne l'a pas fait. Mais
les métiers non pénibles que nous faisons et que nous ferons longtemps.
On
a le temps d'en reparler.
Le nôtre n'est pas pénible.
Avec Franck, on sera là dans 15 ans encore.
Très bien, tant mieux.
Mais parce que vous êtes très jeune.
Exactement. Le nôtre n'est pas pénible. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et donc, parce que je l'ai mis, il est là. Oui. Scandale. Pourquoi vos pharmacies sont vides ? L'incompétence des politiques, les pressions du lobby pharmaceutique à lire dans
une grande enquête, plusieurs pages à lire en détail dans Marianne, à partir d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui. Le 19, non, c'est demain.
Non, c'est demain.
C'est demain jeudi.
C'est passé.
Eric, à très vite. Rédacteur en chef des publications Agora, puis Manal Lechit. Merci beaucoup, messieurs. 19h, dans un instant, on est en retard. Hein.
Oui, on se retrouve pour notamment l'interview avec Pierre Moscovici.
Premier président de la Cour des comptes avec nous, que vous avez rencontré ce matin avec Thomas. Massas Portas dans un instant.
À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.